Qu'est-ce que c'est?
Dévoration.
Gérald Paceda, bonjour.
Oui, bonjour.
Le petit Nice, la plupart des Marseillais connaissent par ce coin de rocher où ils vont bronzer au premier jour. Quand on revient de la Pointe Rouge vers le centre-ville, on manque jamais en fait, de tourner la tête vers cette anse privilégiée qui se trouve juste en dessous de la route. Et de la mer, c'est une vue de la mer, c'est une grande bâtisse blanche qui se dresse comme ça au-dessus des rochers. Finalement, quel que soit le point de vue, à chaque fois, on rêve un peu de cet établissement loin de la ville et pourtant complètement au cœur de Marseille. Pour vous, c'est quoi le petit Nice? Qu'est-ce que ça représente?
Ça représente déjà beaucoup d'amour parce que c'est mon établissement et ça nous appartient depuis 3 générations. Mais c'est surtout un bateau immobile et qui fait voyager midi et soir les personnes et moi-même parce que je suis en adoration devant la Méditerranée, je la défends. Et je pense qu'on est placé en plein centre de la cité phocéenne, donc ce qui nous donne une vision un peu à 360 sur tout ce qui peut se passer sur le bassin méditerranéen.
Décrivez-nous un peu cet établissement que peu connaissent finalement. Enfin, vous êtes un petit peu à part à Nice. Finalement, il y a peu de gens qui osent pousser le portail du petit Nice.
Il y a peu de gens qui osent pousser le portail. De moins en moins, je dirais, parce que bon, les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui est bon, je crois. Et ils ont vraiment besoin de valeurs sûres aussi. Ils ont besoin aussi de savoir où est-ce qu'ils dépensent leur argent. Et ils ont besoin de comprendre une certaine cuisine, qui est une cuisine de l'essentiel. Mais ce que je peux en dire de plus, c'est que c'est quelque chose donc, qui nous appartient depuis 3 générations, que mon grand-père a eu. C'était une villa grecque dans les années 1900 à peu près, qu'il a rachetée et qu'il a montée petit à petit avec ma grand-mère, etc.
Qu'il a agrandi ou elle était
oui,
comme ça
oui, petit à petit, il a fait son chemin parce que lui, il était donc pâtissier, compagnon du Tour de France de pâtisserie. Il a commencé à ouvrir un petit restaurant, à faire des banquets, des mariages. Puis ensuite, il a créé 4 chambres, puis 5, puis 6, etc. Puis mon père est arrivé à continuer. Et il a toujours aimé l'excellence. Et je parle de mon père, comme mon grand-père d'ailleurs aussi, pour arriver à faire grimper cet établissement dans une ville qui n'a pas toujours été aussi, je dirais, sur le devant de la scène médiatique qu'elle l'est en ce moment. C'est-à-dire, je parle des années 70-80, ça a été quand même, même 60 à la limite, ça a été une ville qui a été un petit peu laissée à l'abandon par tout ce qui est territoire parisien, etc., etc. Maintenant, on redevient sur le devant de la scène, ce qui est quand même très très bien pour tous les Marseillais qui sommes là, quoi.
Et l'établissement, à ce moment-là, avec quelle place à Marseille?
Il essayait de se faire une place, je pense qu'il se l'est fait déjà. Et il n'y avait pas grand monde à l'époque à Marseille, au point de vue gastronomie, je pense. Et mon père et mon grand-père ont été des pionniers, je crois, là-dedans. On n'a jamais parlé trop de cuisine marseillaise. On parlait tout le temps, si je ne m'abuse, en gastronomie, je parle de haute gastronomie et réelle. On parlait toujours de la cuisine bourguignonne, la cuisine bordelaise, la cuisine je dirais même de la Côte d'Azur ou de Lyon ou de Paris, mais Marseille était laissée pour compte parce que les poissons et les trésors des abysses étaient, je pense, inconsidérés par la globalité des personnes.
Et c'était déjà la volonté de votre grand-père et de votre père de mettre cette Méditerranée au cœur de leur cuisine ou
Non, moins que ça, parce que mon grand-père étant du Quercy, mon père aussi, au départ, c'était des souches très paysannes que l'on a dans la famille, tout ça. Donc ils se sont tournés plutôt vers une cuisine du terroir qui était moins incisive que ce qu'est la mienne en ce moment, quoi. Mais chaque époque a eu ses critères de sélection, je dirais, gustatifs. Et eux, ils ont essayé de mettre leur pierre à l'édifice. Bien entendu, ils travaillaient le poisson, mais peut-être ils n'ont pas forcé autant les choses que moi je l'ai fait. Et peut-être que les périodes n'étaient pas aussi propices que ce qu'elles sont maintenant. Et les gens étaient peut-être aussi moins ouverts que ce qu'ils sont maintenant aussi.
Et déjà cette volonté de lier le dormir au manger, enfin, pourquoi faire un hôtel
oui,
et un restaurant, c'est important ça
oui. En fait, mon grand-père est un petit peu un pionnier de cette histoire-là, puisque nous sommes que des aubergistes au départ, je pense. Les cuisines ne sont que des aubergistes, de toute manière, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est pas un sous-métier, loin de là.
C'est quoi un aubergiste?
Un aubergiste, c'est quelqu'un qui accueille et qui essaie de faire plaisir à ses hôtes. Donc c'est ça le départ d'un bon cuisinier. Hein. Si on ne commence pas par ça, on n'arrive pas à atteindre des sommets, ça c'est évident. Si on fait ça avec dégoût, on ne peut pas arriver à quelque chose de clair. Donc au départ, ce qu'il a voulu faire, c'était d'abord de la bonne cuisine, et puis il s'est aperçu, comme il appelait ça le petit Nice, parce que ça aussi c'était un coup médiatique pour lui à l'époque, puisqu'il voulait faire venir des Anglais sur Marseille, puisque les Anglais étaient des gens richissimes à l'époque, qui le sont toujours d'ailleurs.
Donc c'était un lien avec Nice, la ville, enfin la Côte d'Azur, c'était
le lien avec Nice, c'était juste, à l'époque, on faisait de la réclame, quoi. Maintenant ça s'appelle de la pub, etc., etc. Mais c'était bien vu, puisque quelque part, lorsqu'on se trouve au Petit Nice, on voit quand même cette rade qui ressemble plus ou moins à la promenade des Anglais. Et c'était juste pour faire venir des Anglais, ce qui a réussi, mais les Anglais voulaient donc coucher. C'est pour ça qu'il a ouvert une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, etc., etc. Et ça s'est fait petit à petit. Et voilà. Et puis l'histoire a commencé à grandir. Petit à petit, on arrive à faire quelque chose de sympathique.
À Omnivore, on avait fait un article sur vous. On l'avait intitulé Brise de Nice. Donc c'était quand même.
Le
Brise de Nice.
Brise de Nice, non, ça ne va pas du tout, non. Franchement, c'est un truc. Je pense pas que ce soit terrible.
C'est quand même un lien avec la Côte d'Azur.
Mais le lien n'est que comme ça, je dirais, susurré, quoi. Il n'est pas. C'est plutôt même un clin d'œil loufoque qui, en fait, c'est même à la limite pour se moquer de Nice, quoi. J'irais. Voilà, parce qu'on sait vraiment qu'on est dans le cœur de Marseille, forcément. Et maintenant, le quartier en a pris le nom, quoi.
Et vous, aujourd'hui, vous êtes plus. Vous revendiquez encore aubergiste ou vous êtes plus hôtelier, plus restaurateur, plus, vous êtes chef vous
Moi,
êtes,
je pense être d'abord cuisinier avant tout, chef bien entendu, forcément parce que tout commis de cuisine ou apprenti de cuisine rêve un jour d'être un chef, donc forcément, moi, j'y suis arrivé. Mais au départ, on est aubergiste, je suis un aubergiste, je reçois mes gens, mes clients, mes hôtes tous les jours. Peut-être que ce n'est pas toujours moi qui les reçois, bien entendu. Mais j'essaie d'avoir l'œil du critique qui regarde tout ce qui ne va pas dans l'établissement pour que tout se passe et coule de source pour les clients qui arrivent. Ouais.
Donc, décrivez-nous un petit peu cet établissement-là, comme je vous disais tout à l'heure, pour les gens qui ne connaissent pas.
En fait, c'est une grande maison blanche avec deux bâtiments où il y a un restaurant panoramique qui donne sur la Méditerranée avec un jardin, une piscine à l'eau de mer et puis une petite salle à manger de 45 couverts, pas plus. Et on a 16 chambres qui sont plus des suites que des chambres, sauf pas toutes, mais presque. Et c'est pas très très grand. Et on est abrité du Mistral, ce qui est très important. Et puis on y est bien reçu, il n'y a pas de problème. Voilà.
Et c'est donc un bâtiment qui ouvre complètement sur la mer. Quand vous asseyez à table, vous avez fait une table très très sobre, avec juste un galet, couverts, je crois, quand on s'assied et on voit la mer.
Oui, c'est comme la Méditerranée, de toute manière, toute ma cuisine, comme l'établissement s'est forgé de par l'aridité de notre arrière-pays, jusqu'en descendant vers les abysses comme ma cuisine. Donc le décor de la table s'y réfère pareillement. Le décor intérieur, pareil, puisque j'ai des murs qui reflètent un petit peu comme
de la nacre.
La mer lorsqu'elle vous agresse les yeux, quoi, c'est-à-dire la réverbération. J'ai aussi un grand oursin dans la salle à manger, qui est un pseudo. Voilà, toutes ces choses-là, je n'ai pas voulu que ce soit kitsch, mais que c'est un rapport avec les abysses constants pour définir ma cuisine par palier, et que c'est un rapport aussi avec la terre qui m'est nécessaire et très chère.
Donc un ancrage à la fois sur l'eau et sur la terre. Enfin, on se trouve ici là au salon Terroir 13. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, la mer, on va en parler, mais l'ancrage sur le terroir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
L'ancrage sur le terroir, c'est l'aridité ici. En fait, il y a tellement peu de choses, ou il y avait tellement peu de choses, en fait, puisque maintenant, les gens commencent à s'intéresser à une vraie agriculture, etc. On voit les chefs d'Europe, tout ça revient de plus en plus sur le devant de la scène. Mais à l'époque, pour trouver de très très bons produits, il fallait faire des kilomètres, quoi. Je veux dire, la Provence, tous les produits que l'on avait ici partaient à Paris. C'est ce qui était une ineptie, quoi. Maintenant, tout reste ici, c'est quand même pas mal. Et je crois que pour arriver à fonder quelque chose de sympathique et de grandiose aussi, il faut absolument travailler avec les gens de notre pays, de notre terroir, parce que lorsqu'on vient manger chez moi, on a envie de manger ce qui se trouve autour. On n'a pas envie de manger ce qui est ailleurs. Voilà.
Et qu'est-ce que vous travaillez comme produit d'ici ? Enfin, quels sont les produits
le plus
ici
possible,
pour les gens qui
bien connaissent
entendu
pas les poissons de nos pêcheurs, qui sont quand même mes premiers fournisseurs. Et je ne prends jamais le poisson en crié. Il faut savoir que chez moi, le poisson n'a jamais touché la glace et qu'il est pris au palangre, comme on dit ici, c'est-à-dire à l'hameçon et à la ligne.
Vous faites retravailler des pêcheurs qui ne travaillaient plus et qui ne servent que le petit Nice.
Voilà, c'est un travail d'une quinzaine d'années, depuis 15 ans à peu près, où J'établis un dialogue d'amitié avec des pêcheurs du Vieux-Port, du Vallon des Offes, de Calongue, de Carreau, de Carie, qui retravaillent la pêche de palangre comme on le faisait au XIXe siècle, pour arriver à obtenir une qualité de poisson comme on nulle part ailleurs, quoi, en Méditerranée. Et avec un respect du produit qui arrive à une cuisine pour de l'essentiel. Voilà.
Et en quoi cette qualité est-elle exceptionnelle ?
Simplement parce que le poisson n'a pas souffert lorsqu'il est mort, qu'il a été pris avec respect, qu'il a été conservé avec respect et qu'il est travaillé et servi avec respect. Donc tout ceci fait que les chairs ne sont pas, n'ont pas été heurtées, il n'a pas été transporté, il n'a pas eu de... Vous voyez, j'ai une chance inouïe d'être dans le bassin méditerranéen. Donc on a des poissons oubliés aussi, que je remets sur le devant de la scène, c'est-à-dire comme le saran, la cante, la mostelle, la galinette, tout ça, enfin tous ces poissons. Je travaille à peu près 65 sortes de poissons par an pour essayer de faire surtout aussi tourner un petit peu l'écosystème, qui me paraît logique.
Oui, donc des poissons qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Enfin, j'ai mangé chez vous, par exemple, des anémones de mer. On n'en trouve pas très facilement.
Les anémones de mer, c'est bien marseillais, en fait. Les grands-mères faisaient ça avant-guerre, je pense, ou pendant la guerre aussi. Ce qui paraît, j'étais pas né, mais bon, surtout parce qu'on n'avait pas d'argent, ils ne savaient pas sur quoi on pouvait se nourrir. Donc, ils faisaient soit des omelettes, soit des salades, soit des beignets d'anémones de mer. Et j'ai retranscrit ceci en beignet, bien entendu. Et je pense que c'est quelque chose, je crois être le seul à le faire, puisqu'il n'y a qu'un seul pêcheur qui le fait juste pour moi, à la fourchette. C'est un long travail aussi de récolte. On a les oursins, on a les violets, on a un terroir qui est extraordinaire. Extraordinaire, mais il faut savoir qu'il n'est pas outrancier. Il faut vraiment prendre quelque chose avec respect et ne pas saccager le reste, voilà.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pas outrancier ?
Ce n'est pas quelque chose à profusion, on n'en est pas en Bresse où il y a des vaches de partout, je veux dire, c'est pas quelque chose... Ici, c'est l'aridité, c'est le soleil, c'est le mistral, c'est quelque chose de vif. Et notre cuisine, et ma cuisine est pareille, et les produits sont pareils, quoi. Ce n'est pas la profusion. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec respect. Voilà.
Donc une aridité qui est valable pour la mer comme pour la terre aussi ?
Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut... pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que moi, cette année, je ne fais pas de thon parce que j'ai pas envie d'en faire, parce qu'il y a des raisons pour ça. Je crois que si les cuisiniers font à un moment donné quelques efforts sur des choses, on va pouvoir arriver peut-être à mettre quelques petites gouttes comme ça à notre édifice pour essayer que ça aille un petit peu mieux. Mais il est vrai que moi, par exemple, lorsque je travaille des poissons comme le maquereau, que les gens ne mangent pas pratiquement, et que je mets ça à ma carte... C'est somptueux, c'est magnifique parce qu'il a été pris à la ligne, parce qu'il a été respecté, etc., etc. On n'est pas forcément obligé de manger du thon. Maintenant, il y a une mode qui me paraît absurde, c'est celle des sushis. Tout le monde mange des sushis, mais il mange du thon qui vient, on ne sait pas d'où, qui a été pris, on ne sait pas comment. Après, ce sont les premiers à rouspéter en disant oui, vous respectez pas la Méditerranée, mais il faut d'abord regarder ce qu'ils mangent eux, voilà.
Enfin, on peut manger du sushi de maquereau.
Exactement, on peut manger du sushi de maquereau ou de sardines ou des trucs comme ça, bien sûr.
La sardine, vous en faites ?
Oui, j'en fais quand il y en a, mais il n'y en a plus beaucoup. Il faut savoir que les espèces tournent.
Donc la sardine qui est vendue sur le port, elle n'est pas d'ici ?
Si, quand il y en a, elle est d'ici, bien sûr.
Et vous faites un... Donc vous avez une démarche aussi presque écologique. Enfin, vous faites fort défendre... tous les chefs n'ont pas ce discours-là sur la mer. Beaucoup de chefs ont encore du temps.
C'est pas une question de démarche écologique ou pas. C'est une question de bon sens, quoi. C'est tout. Moi, j'ai un fils. J'ai envie qu'il vive bien, si possible. Et puis, je pense que tous les parents sont comme ça. Et puis, ça me paraît logique de respecter l'endroit où l'on vit... le plus possible, si on peut essayer de faire quelque chose. Voilà. On n'est pas là non plus pour tout déflorer ou tout défenestrer. C'est pas notre but. Le but est de servir des produits et qui est quand même qui puisse perdurer dans le temps aussi, et puis pour faire justement bénéficier les générations futures de notre petit savoir.
Est-ce que vous êtes vigilant sur la taille des poissons ? Est-ce que c'est important, ça ?
Oui, mais quand on s'adresse à des pêcheurs professionnels, ils ne font pas n'importe quoi, forcément. Donc, ils amènent des pièces qui sont assez conséquentes pour qu'on puisse les servir, forcément.
Et sur le poisson que... Donc, vous n'êtes approvisionné que par ces pêcheurs-là ?
Sauf quand il y a un mistral énorme pendant 3 semaines. À ce moment-là, j'achète des poissons en Bretagne, comme tout le monde, parce que j'ai quand même un restaurant à faire tourner. Il faut être logique. Mais je dirais... 11 mois et demi sur 12, ce sont des poissons de Méditerranée, voilà.
Et quel est le rôle des chefs vraiment dans cette défense du bien manger, enfin de la préservation de l'environnement? Comment vous voyez les choses par rapport à ça?
Je crois que c'est un rôle, c'est une éthique à respecter, et puis c'est un message aussi à faire passer, que nous ne sommes pas non plus que... si on essaye de faire ce métier avec amour et puis de servir des choses qu'on a envie de manger nous-mêmes au départ, il faut respecter tout ça. Et le message est clair, il faut justement que les gens prennent conscience que maintenant, quand même, les très très bons produits se font de plus en plus rares. Il faut donc de plus en plus se respecter. Et si on en arrive à cet état de fait quand même, c'est aussi en grande partie une faute à la grande distribution aussi, de toute façon.
On va faire une petite pause. Vous nous avez apporté deux musiques que vous aimiez bien. Qu'est-ce qu'on va écouter là en premier ?
En premier, je pense qu'on va écouter les BGM, qui est un groupe américain qui est pas mal du tout. Enfin, Brian Jamestown Massacre. Et c'est un groupe assez barré qui me plaît bien. Ouais.
Que vous avez découvert comment ?
Que j'ai découvert en écoutant les Dandy Warhol. Et c'est la personne qui a formé ce groupe-là. C'est quelque chose que j'avais écouté en concert à Los Angeles il y a quelques années, quoi.
Thank you.
BGM, on était totalement dans la salle du petit Nice. Hein. Enfin, vous dites que c'est assez barré. Comment on fait pour... Enfin, vous avez peut-être ce côté qu'on ne perçoit pas très bien comme ça dans vos cuisines, mais un côté aussi déjanté. Enfin, vous avez beaucoup bougé. Comment vous passez de Los Angeles à Marseille? Pourquoi vous êtes revenu?
Dans le sens où la première fois que je suis allé aux États-Unis, en fait, c'était en 77, je crois. Et c'était à New York. Et à cette époque-là, il y avait, sur les quais de New York, donc dans les nouveaux quartiers qui sont maintenant très, très à la mode et qui, à l'époque, n'étaient rien du tout là-bas, j'ai eu un gros flash. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Marseille est pareil, les docks sont pareils, mais en miniature. Et depuis cette période-là, je me suis toujours dit qu'il y avait un parallèle à faire. Et puis aussi peut-être par certaines rencontres qui ont été quelque part des détonateurs, des déclics dans la culture rock. Et voilà.
Et vous trouvez que c'est un côté déjanté, Marseille?
Ça peut l'être, mais ce n'est pas vraiment déjanté. Que ce soit un côté déjanté ou pas, ce n'est pas très grave. Il faut bien s'y sentir, c'est tout, quoi. Comme moi, je me sens très bien à New York parce que ça pulse. Mais à Marseille, je m'y sens aussi très très bien parce que c'est hyper mixé. Et puis, général Méditerranée est là à nos pieds. Voilà, c'est tout. C'est là où vraiment j'ai ma base, quoi. Mais je n'hésite pas non plus à pouvoir prendre un avion pour décoller, pour aller ailleurs, quoi.
C'est important, ça vous nourrit, ça nourrit votre cuisine d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs?
Je l'ai fait pendant pas mal d'années, maintenant un peu moins parce que bon, ça va, mais je le refais une ou deux fois par an quand même pour entretenir, je dirais, la valse. Mais oui, c'est assez important, je crois. Et je crois que être déjanté quelque part dans sa tête, ça, il faut bien le garder pour des occasions certaines, mais il ne faut pas non plus trop le mettre dans son métier, surtout le mien. Je me dois d'avoir des retenues et c'est volontaire que je les ai, quoi, aussi.
Pourquoi?
Parce que je pense que le respect ne fait pas partie de la culture rock sur tous les fronts. Donc moi, dans ma cuisine, je suis très respectueux de ce que je fais. Et à l'extérieur, je suis tout à fait autre chose. Voilà.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté, tous ces extérieurs, ces voyages, ces...
Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Je suis pas assez... J'aime pas tellement me regarder faire, donc c'est plutôt aux autres personnes de le dire. J'en sais rien, mais je pense que
vous
ça m'a apporté
des épices, par exemple, dans votre cuisine.
Certaines ouvertures d'esprit, c'est tout. C'est tout.
Et dans votre cuisine, vous avez une cuisine. Enfin, vous avez, à un moment, vous faisiez pas mal de palmistes, enfin des produits que vous rapportez, enfin que vous avez découvert.
Oui, lors des voyages.
Dans des voyages. Oui. Donc ça, vos voyages, ils se retrouvent aussi dans l'assiette.
Oui, de moins en moins, quand même.
Il y a un recentrage sur...
Il y a un recentrage un peu sur... De plus en plus sur ce qui se fait ici, ouais. Et c'est pas plus mal, je crois. Mais il faut pas tout mélanger. Donc c'est pour ça que je voulais revenir à ça, dans le sens où... la culture rock, c'est un truc qui est bien défini, etc. Tac, tac, mais ça n'influe pas sur la cuisine. Ou alors ça a influé sur la cuisine, ainsi que l'art contemporain, tout ça, ça peut le faire. Mais c'est tellement infime, quoi. Je crois que ce qui... influe le plus sur la cuisine, c'est quand même le goût et que le goût. Ensuite, on l'a ou on l'a pas, ou alors on le cultive ou on le cultive pas. Moi, j'ai la chance de l'avoir ou de l'avoir cultivé. Et je pense pas en être arrivé là si j'avais pas eu de goût, si j'avais pas eu un palais que je me suis forgé au fur et à mesure des années, quoi.
Et comment on se forge le goût?
Il n'y a pas de recette vraiment pour se forger le goût, sauf d'aller manger chez des grands chefs.
Vous, comment vous avez fait alors?
Hein?
Comment vous avez fait?
Moi, comment j'ai fait D'abord, je me suis forgé le goût, paradoxalement, par la fragilité. Je suis très fragile de l'estomac, donc je ne supporte pas les choses qui sont grasses. Donc forcément, ma cuisine est centrée là-dessus. Elle n'utilise pas ni de crème ni de beurre. Elle est fondée sur l'huile d'olive, voilà. Donc le régime crétois, si on en détermine le sujet qui vient de la Méditerranée, bien sûr. Donc des choses qui amène beaucoup de sapidité et très peu de graisse, comme le poisson notamment, voilà. Et cette fragilité, je me définis souvent de fois comme un filtre, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis malade ou je le ressens très très mal, quoi. Et de cela, je me suis fondé, si vous voulez, une base de données dans mon cerveau quelque part, où chaque fois j'assimile toutes les possibilités de goût, et après j'arrive à les sortir comme ça pour arriver à faire quelque chose.
Voilà. Une espèce d'étalonnage comme ça personnel et.
Ouais, c'est un petit peu ça, parce que On arrive à être bon que lorsque l'on est reconnu, mais au départ, lorsque vous tâtonnez comme ça, que vous êtes chez vous, que vous êtes juste un cuisinier lambda, que vous faites de la bonne cuisine, certes, mais vous n'avez pas le monde à vos pieds non plus, parce que votre parole n'est pas prophétie absolue, quoi. Et à partir du moment où vous avez 3 étoiles, alors là, on dit que vraiment, vous avez trouvé quelque chose qu'il fallait trouver. Mais pour en arriver là, il faut quand même 30 ans de métier derrière, et 30 ans, il n'y a pas eu que des choses super bien dans ma cuisine en 30 ans, forcément. Il a fallu que j'essaie, que je tâtonne comme un artiste qui essaye de trouver sa voie. Et le plus important, ça a été de trouver la voie culinaire.
Et vous êtes aussi entouré d'une équipe très très stable, ce qui est assez rare dans le milieu de la restauration. Enfin, deux seconds qui sont là depuis des années. Un chef de salle aussi qui vous connaît presque depuis que vous êtes tout petit.
Non, mais j'aime bien.
Vous avez grandi ensemble tous.
Ouais, non, mais ce sont des gens qui font partie pratiquement de ma famille. Parce que bon, voilà, ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi, 15 ans, 12 ans, 7 ans. Enfin, il y a 55 personnes quand même, mais bon. Et puis, j'estime que si les gens se sentent bien chez moi, c'est parce que j'ai bien voulu qu'ils se sentent bien chez moi aussi, et eux aussi, bien entendu. Et puis, parce que je les ai considérés comme il fallait. Parce que je pense aussi qu'on ne fait pas les choses tout seul. Qu'à un moment donné, il faut déléguer plein de choses pour arriver à un objectif que l'on se désigne.
C'est une construction tous ensemble sur la cuisine.
Forcément, parce que ma cuisine paraît simple d'abord comme ça, mais elle est assez complexe à réaliser. Puisqu'elle est tellement simple, donc justement, que si on se rate de quelque peu, elle tombe à l'eau complètement. C'est le cas de le dire, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas mal de mains pour la fabriquer. Et qu'elle doit se faire dans l'instant, dans la minute et dans le respect. Et donc voilà, c'est pour ça.
Mais depuis quelques années, enfin, ce travail est assez récent finalement sur la simplicité. Vous êtes arrivé effectivement à envoyer des plats très très simples sur des bouillons limpides, un poisson très très juste. Enfin, vous travaillez énormément les cuissons des poissons, bien sûr. Et du coup, des assiettes très simples et que les gens ne comprennent pas forcément du coup.
Oh ben si, maintenant ils comprennent bien, ils ont bien compris le coup, pas de problème. Ouais. Non.
Mais ce travail sur la simplicité, ça se fait comment? Est-ce qu'on n'arrive pas justement à l'essence même de la cuisine, ce à quoi vous aspirez?
Ce qu'on aspire, c'est arriver à l'essentiel, et puis c'est ce qu'on veut déterminer, quoi. C'est ce qu'on a envie de donner en tant que cuisinier, on veut donner l'essentiel, point à la ligne, c'est tout. Le reste, c'est du superflu. Il faut arriver d'entrée de jeu à l'essentiel, petit à petit. Après, c'est à nous de déterminer comment on veut faire arriver les clients, enfin nos hôtes, à l'essentiel, par des menus à plus ou moins longs, par des propositions plus ou moins courtes, plus ou moins longues, plus ou moins structurées, enfin, etc. Il y a plein de paramètres. Et c'est tout un travail d'arriver à l'essentiel. Il faut vraiment tout enlever, quoi.
L'essentiel, c'est subjectif. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bien sûr que c'est subjectif, mais les gens viennent chez moi pour manger ce que j'aime.
C'est votre essentiel à vous ?
Exactement. Ils viennent pour manger ce que moi je pense être bon. Maintenant, il y en a qui peuvent ne pas aimer. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà quoi. Je pense qu'à un moment donné, ce qui est très intéressant pour les gens aussi, c'est qu'on puisse leur raconter notre propre histoire. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent écouter, c'est ça qu'ils veulent manger, c'est ça qu'ils veulent voir, c'est ça qu'ils veulent entendre. Et ce qui est normal aussi.
Alors justement, dans votre histoire, je crois que vous la racontez très très bien dans le menu Bouillabaisse. Qui est, à mon sens, une espèce de défilé comme ça de votre vie, du lieu dans lequel vous évoluez, et puis de Marseille, de la Méditerranée. Vous pouvez nous le raconter un petit peu, ce menu bouillabaisse?
Oui, ça, en fait, j'ai tellement tergiversé avec cette bouillabaisse, on en a tellement parlé et rabâché les oreilles pendant des années, qu'elle est passée dans mes mains dans tous les sens. Elle a été compressée, décompressée, liquide, solide, froide, chaude, enfin dans tous les machins. Jusqu'à ce que j'arrive enfin à trouver celle qui me paraisse la plus, je dirais, goûteuse et la plus appropriée à l'époque que l'on vit, en fait. Et donc, je me suis basé sur mes souvenirs d'enfance, comme pour pas mal de plats, d'ailleurs, en sachant que lorsque j'étais gamin, j'allais bien entendu sur les rochers du Petit Nice et aux alentours à Malmousque et Mal-Dormé, pour l'après-midi, parce qu'on s'ennuie, ou le matin, parce qu'on ne savait pas quoi faire. On se faisait des coquillages, on mangeait des coquillages. Donc le premier palier, ma bouillabaisse, c'était en 3 paliers, en fait. Le premier palier est donc une progression lente, par palier, dans les abysses. Et je commence par la roche, qui est l'histoire de récolter toutes ces moules, tous ces coquillages que l'on trouve, les violets, etc., et d'en faire un carpaccio dans sa plus simple simplicité. C'est un plus simple appareil, je dirais. Et avec des petits beignets de girelle et puis un petit sucre de girelle qui les accompagne aussi. Le deuxième palier, c'est tout un échantillon, comme des papillons de poissons qui sont alignés avec un bouillon safrané au girel aussi. Et le troisième palier, ce sont les grosses pièces de poissons que l'on trouve dans les abysses, comme le denti, la galinette ou le chapon, etc., qui sont cuits à basse température et qui sont servis avec la soupe de poisson et les croûtons et la rouille des pêcheurs, comme on faisait dans le temps. Quoi. Voilà.
Des patates qui sont rondes.
Et les pommes de terre safranées qui sont toutes rondes. Ouais. Ouais.
Et pour vous, c'est comment vous le résumez, ce plat-là?
Ben, je pense que c'est d'abord c'est ma bouillabaisse, et puis d'abord c'est celle qui me semble être le hyper goûteuse, comme j'ai envie de la manger moi de toute manière, parce que j'ai pas envie de voir arriver un plat, un gros torpilleur sur table avec du poisson trop cuit et des pommes de terre pas assez cuites, ou vice versa, et voilà quoi, ça m'amuse plus du tout, ça m'amuse pas.
C'est important de travailler sur un plat dit typiquement marseillais, enfin le plat marseillais.
Je pense que c'est important de travailler surtout sur la bouillabaisse. Ça a été il a fallu quand même pas mal d'années pour la trouver, pour ajuster un petit peu comme elle est maintenant, quoi. Je dis pas qu'elle bougera pas, mais pour l'instant elle est bien calée et c'est assez important dans le sens où il y a des gens qui disent qu'il y a de la charte, pas des chartes, de la bouillabaisse ou ça, mais tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la littérature à la limite, je dirais. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de vraiment bien manger, quoi. Voilà. Et ma bouillabaisse est faite pour être bien mangée.
On s'écoute un petit PJ Harvey ?
Eh bien, bien volontiers.
A big love. twist your head or say, till you say, don't you wish you never.
Gérald Paceda, vous parlez de l'importance du bien manger et vous revendiquez aussi votre cuisine que vous dites populaire, simple, dans un cadre qui reste celui d'un triple étoilé maintenant. Qu'est-ce que vous entendez par une cuisine populaire ?
Eh bien, elle est assise sur quand même des souvenirs d'enfance de grand-mère, de grande-tante qui pratiquaient une cuisine populaire, je crois aussi. Et elle est populaire dans le goût, parce que je crois que ce qui amène les gastronomes du monde entier à manger dans des étoilés, justement, c'est pour le plaisir gustatif de retrouver plein de plaisirs qu'ils ont eu dans l'enfance, quoi. Des émotions qu'ils ont connues dans leur enfance, et puis voilà.
Et comment on tire d'une cuisine populaire, familiale, une cuisine dite gastronomique ?
Comment je ne sais pas.
Quelle est la transformation qui s'opère ?
J'ai encore pas écrit mon livre là-dessus parce que j'ai en train d'y réfléchir parce que c'est assez complexe. Je dirais le chemin est assez compliqué pour arriver à cet état de fait qu'il y a en ce moment, quoi. Mais c'est le cheminement de la vie, tout simplement, parce qu'on arrive à faire des choses qu'au départ on pensait pas pouvoir être capable de faire. Et puis il s'avère que suivant les rencontres, suivant les chemins qu'on s'est donnés, on arrive à faire quelque chose qui, a priori, est intelligent. Qu'est-ce que c'est beau, quand même, non ?
Est-ce que le lieu du restaurant gastronomique est approprié à cette cuisine-là ? Cette cuisine pourrait s'exprimer dans un autre contexte ?
Je pense que cette cuisine a quand même besoin d'un lieu qui soit en rapport avec ce qu'elle veut définir aussi, je crois. Elle le perd un petit peu pied, je dirais, dans un endroit moins adéquate, je pense. Elle est toujours aussi bonne. Mais de toute manière, c'est comme vous, si vous recevez un cadeau, si le paquet n'est pas terrible, vous avez moins de plaisir à l'ouvrir. Là, c'est pareil. Je crois que pour toute chose, il faut quand même que ce soit bien présenté, bien amené, bien agencé, qu'il n'y ait pas d'anicroche et que tout se déroule et que tout découle de source.
Est-ce que ça influe sur la cuisine ?
Non, ça n'influe pas sur la cuisine, mais ça influe sur la perception de la cuisine.
Ça aide à mieux manger.
Je pense, ouais. Je pense que quand même, l'endroit où l'on se trouve aide à mieux manger, je crois. Et de toute manière, on voit très bien que lorsqu'on mange en terrasse et que lorsqu'on mange en salle à manger, on est moins attentif en terrasse à ce que l'on mange que lorsqu'on est en salle à manger. Voilà. Et dans l'absolu, il faudrait vraiment manger dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre et où il n'y a absolument rien qui puisse détourner l'attention pour qu'on soit complètement concentré sur l'assiette.
Pour vous, c'est important de capter l'attention des gens qui viennent manger chez vous ?
C'est quand même essentiel. Je crois que nous, il faut aussi que les gens sachent qu'ils respectent quand même une équipe de 50 à 55 personnes qui travaillent pour eux, qui sont là à des heures, qui font pas mal d'heures exprès aussi, c'est ce qui est normal. Mais bien sûr qu'il faut qu'ils soient quand même attentifs à ce qu'ils vont recevoir, quoi. Je veux dire, c'est pas gratuit, c'est pas vain non plus. C'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi, mûri, fait avec amour. Donc on peut pas venir comme ça et se dire, ah, tiens, on va bouffer un truc. Voilà. Non, ça marche pas comme ça. Non. Il y a quand même tout un cheminement intellectuel qui se prépare et qui doit se faire de la part du client pour arriver à manger quelque chose de gastronomiquement intelligent, je crois. C'est pas comme ça. C'est pas un truc qui est rapide. Ça, non, il faut du temps. Voilà.
Et comment vous récupérez l'attention des, comment vous captez l'attention des clients qui sont dans un cadre, enfin il suffit de regarder l'horizon puis ça y est on est parti déjà.
Justement, ça fait partie de l'histoire. Justement, nous on a capté l'attention des clients justement en les amenant à regarder l'horizon et l'horizon est reflété par ma cuisine.
Et vous travaillez pas mal aussi sur les contenants. Est-ce que c'est important de mettre sa cuisine, enfin de réfléchir à la façon de mettre sa cuisine dans un contenant, comment elle va être apportée à table, comment elle va être servie et mangée après aussi par l'œil?
Oui, bien sûr. Il faut que les réceptacles soient complètement adéquats avec ce qu'on veut donner, quoi. Que ce ne soit pas disproportionné. Et c'est un truc, c'est l'art de la table, tout simplement, qui est bien pensé, de toute façon. Et que l'on essaie d'appliquer façon 2009.
Sur la bouillabaisse, par exemple, vous avez fait un gros travail. Qu'est-ce que vous avez choisi comme...
Ça, c'est une porcelaine que j'ai trouvée comme ça par hasard, de deux jeunes personnes qui sont venues me démarcher, qui font travailler des gens en Ardèche, quoi, qui font de la porcelaine. Donc. Et j'avais pas pris ces trucs-là pour ça, j'avais pris ça pour autre chose, pour des corbeilles de fruits, je sais pas quoi. Et puis finalement, ce qui m'a fait pencher là-dessus, c'est qu'en ayant vu des faïences au musée de la faïence à Marseille, j'avais vu des plats comme des couscoussiers en faïence. Voilà. Et ça, je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse pareil. Quoi. Je ne suis jamais arrivé à le faire. Et sauf lorsque ces deux jeunes personnes sont venues me voir, ils m'ont montré quelque chose de similaire, mais empilable, mais qui n'était pas des couscoussiers. Et donc j'ai assimilé ça et je me suis débrouillé comme j'ai pu. En faisant un petit peu cet empilé, oui c'est ça, ce sont des cylindres comme ça empilés avec de l'eau de mer en dessous pour tenir au chaud. Il y avait aussi le phénomène qui était très important, il fallait que je tienne bien au chaud les produits, quoi. C'est quand même essentiel de manger chaud, certaines choses.
Une vaisselle très blanche, très sobre, aucun...
Très pure, oui. Bon, parce que je pense que...
Il ne faut pas que ça vienne empiéter.
Non, et puis c'est sur le blanc que je m'exprime le mieux là-dessus, enfin en cuisine notamment, quoi.
Vous parliez là de cuisine de 2009, c'est quoi aujourd'hui? Nous, Omnivore, on l'a un petit peu dénommé comme la jeune cuisine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la cuisine contemporaine?
Je pense que la cuisine contemporaine revient de pas mal de choses. C'est déjà, je crois, en ce moment, une cuisine de produits avant tout, une cuisine de mâche.
Qu'est-ce que ça veut dire, une cuisine de produits?
Une cuisine de produits, ça veut dire une cuisine qui respecte le produit et qui se fonde sur le bienfait du produit recherché, je crois. Comme moi, le poisson, je cherche le meilleur. Que ce soit en viande, c'est pareil. Du bœuf du Limousin ou des choses, bon, peu importe. J'ai quelqu'un qui fait ça pour moi. Je crois qu'on a été un petit peu théâtralement pris par cette fournaise-là qui a été la cuisine moléculaire, un petit peu, qui a mis cet aspect, je dirais, trop théâtral. Et on ne se remplissait pas l'estomac comme on avait envie de le faire. Et au final, tout le monde s'est aperçu qu'à un moment donné, on avait faim, quoi, de toute façon. Et qu'est-ce qui était le plus important? Était-ce de réfléchir à ce qu'on a dans l'assiette, comment a-t-il fait ceci ou quoi? Ou, lorsqu'on est avec quelqu'un à table, de se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est bon, je me suis régalé. Entre les deux propositions, je préfère la seconde. » Et je crois qu'un vrai cuisinier doit comprendre une chose, c'est que son talent n'a d'égal qu'au goût qu'il donne aux choses. Voilà. Il n'y a que le goût qui est au final prépondérant et indispensable à la cuisine.
Le goût, par exemple, de cette huile d'olive que vous nous avez apportée, l'huile d'olive vierge extra, elle vient d'où votre huile que vous vendez au petit Nice?
Elle vient de Toscane.
Qu'on peut goûter que chez vous?
Oui, absolument. Mais j'ai acheté toute la cuvée, puisque c'est celle que j'utilise en cuisine, de toute façon. Elle vient de près de Florence. Et c'est une huile extraordinaire qui est très très forte comparativement. C'est pour ça que je l'ai acheté en Toscane. J'ai pas trouvé l'équivalent en Provence. Sinon, j'aurais acheté en Provence. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, c'est celle qui est, je dirais, la pierre angulaire du loup Lucie Paceda, qui est quand même le plat phare de la maison, quoi.
Qui est présenté dans un petit bidon opaque. C'est important ça pour l'huile.
C'est important pour le voyage, pour le transport aussi. Et c'est toute une démarche aussi qu'on a fait sur le packaging, bon, parce que ça, c'est pas moi qui m'en occupe, bien sûr, mais parce qu'on a aussi lancé notre boutique en ligne où il y a tous les produits, enfin, certains produits que j'utilise en cuisine, que je vends aussi par Internet, forcément. Mmh.
Donc, la cuisine... finalement, vous êtes aussi un chef... Vous êtes un chef très moderne avec une utilisation d'Internet. Vous avez un très beau site. Vous voyez, vous baladez avec votre iPhone tout à l'heure, totalement à l'aise avec ça. Donc là, ça fait partie de l'univers de la cuisine moderne, contemporaine ?
Je sais pas, il y en a qui sont complètement réfractaires à tout ça. Moi, franchement, j'aime bien tout ce qui est gadget, j'adore ça. J'aime bien les jouets d'enfants, de grands-enfants aussi. Je suis pas du tout réfractaire. Bon, ça me plaît. Mais j'aime pas que ça, j'aime bien lire aussi, j'aime bien regarder des expositions d'art. Mais bon, après, il faut s'intéresser ou pas. J'aimerais bien aussi, à terme, avoir un très grand potager où je puisse faire des légumes directement pour chez moi. C'est peut-être en prévision, on verra si ça se concrétise ou pas. Mais effectivement, non, je suis pas du tout passé à côté de la génération Internet parce que j'estime que maintenant, le monde est agenté par ce média.
Donc ça fait partie aussi de votre modernité. Sur la cuisine, comment vous voulez la définir, en dehors du produit, de la mâche, quelles sont les caractéristiques, enfin, comment vous la décrivez?
Moi, je définis ma cuisine qui est... je dis souvent qu'elle est sur le fil du rasoir, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, si on loupe quelque chose, on passe complètement à côté de l'histoire. Et elle se mérite aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y venir petit à petit, quoi. C'est pas quelque chose qui arrive comme une évidence. Et pourtant, après, elle arrive comme une évidence. On pénètre pas dans cette... je pense que c'est quelque part un travail d'artiste. On n'y pénètre pas comme ça très facilement. C'est pas du prêt-à-porter qu'on fait. C'est de la haute couture, de toute façon.
Mais est-ce que c'est pas le problème des chefs gastro de se couper, finalement, du monde? Enfin, il y a des gens qui ont vraiment peur de pousser la porte des gastro. Comment...
C'est une démarche à faire. Je sais pas si les gens ont peur ou pas. C'est leur problème. Après, je sais pas. Ils font comme ils veulent. S'ils veulent pas venir, ils viennent pas. S'ils veulent venir, ils viennent. S'ils veulent pas aller dans un musée, ils vont pas. S'ils veulent pas visiter telle ville, ils y vont pas. C'est un peu leur problème, non? S'ils veulent rester chez eux, regarder la télévision et les informations toute la journée, c'est leur problème aussi. Mais je m'en fous. C'est pas mon truc, moi.
Mais donnez-leur des arguments pour venir.
Justement, l'argument, j'en donne pas. Il faut vraiment qu'ils aient envie de venir, quoi. S'ils ont vraiment faim, qu'ils ont vraiment envie de bien manger, il faut qu'ils viennent chez moi. Voilà, ça c'est clair. Et qu'ils aiment le poisson, bien entendu, parce que je fais que ça.
Comment vous répondez sur les problèmes de tarifs éventuellement? Vous êtes vous des problèmes de tarifs. Votre premier menu le midi est à 85.
Je réponds que franchement, c'est pas cher. 85 euros, c'est pas très cher.
C'est même pas cher du tout. Par rapport au produit que vous fournissez.
Par rapport au produit que l'on fait, par rapport au service, par rapport à plein de choses. C'est un menu qui comprend des feuilletés bars, des amuse-bouches, une entrée, un poisson, une viande, un dessert. Je veux dire, ça va pour 85 euros hors boisson le midi. Et bon, évidemment. Mais de toute manière, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas manger vraiment pas cher, sauf si on a un potager soi-même et qu'on se fait la cuisine. Hein. On n'est plus, plus au 19e, c'est terminé. On est au 20e, 21e, hein, c'est bon. On est passé à autre chose.
Donc l'avenir, là, sur le la...
Oui. Et oui, même, je voulais dire une chose aussi, c'est que quand même, les pêcheurs qui se lèvent tous les matins à 2h du matin, il faut quand même les payer, ces gens-là. C'est pas... moi, je ne travaille pas avec la criée ou je ne travaille pas avec des grandes centrales d'achat. Je travaille qu'avec des petits producteurs. Je les paie peut-être mieux que les autres, mais ils font un travail qui est équitable, qui est superbe. Et justement, tout ceci a un prix, forcément. Moi, j'essaie de resserrer mes tarifs le plus possible, mais à partir du moment où on ne peut pas faire autrement. On vit en France, on y est bien, on doit payer des charges sociales et on le veut bien aussi, et c'est tant mieux pour tout le monde. Mais tout ceci a un prix forcément. Et on ne peut pas manger super bien pour 3, 4, 5, 10 euros, c'est pas possible. Ça n'arrive pas, quoi.
Comment vous voyez l'avenir de la gastronomie ?
Je pense qu'elle a un bel avenir parce que les gens aiment de plus en plus manger. Les gens se rendent compte aussi que faire la cuisine chez eux, c'est faisable et possible, et que tous les tours de main que l'on peut donner, on s'aperçoit qu'ils les font aussi chez eux après, et tous les petits conseils qu'on peut donner aussi. Je crois que la cuisine, il y aura toujours ce phénomène du très très grand restaurant où l'on mange très très bien, etc., etc., et je crois qu'il y aura de plus en plus de très bons petits restaurants avec des propositions uniques qui se feront, voilà.
Cher Alpaceda, on termine par un petit questionnaire omnivorien. Il faut que vous répondiez très vite. Votre premier souvenir gustatif?
Le premier souvenir dans quel sens? Gamin ou à table ou chapelle? Alain Chapelle. Allez.
Qu'est-ce qui est bon?
Le poisson.
Qui vous a donné envie de faire la cuisine?
Ma grande-tante et mes grands-mères.
Quand vous ne cuisinez pas, qu'est-ce que vous faites ?
Je lis, je nage, je dors.
Quel est le plat que vous n'arrivez pas à faire ?
Quel, pardon ?
Le plat que vous n'arrivez pas à faire.
Le plat que je n'arrive pas à faire, le plat, un plat avec beaucoup trop de matière grasse.
Fromage ou dessert ?
Les deux.
Le plat que vous auriez aimé inventer ?
Le plat que j'aurais aimé inventer, bah forcément, c'est une nage de homard d'Alain Chapelle.
Gérald Paceda, merci.
De rien, merci.
Oh, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Qu'est-ce que c'est ?
Dévoration.